Vous écoutez
RMC.
RMC.
Oh, attention à ce ballon qui traîne. Oh, c'est but. Le cinquième but est le plus beau. JJ Okocha s'amuse avec la défense belge et décoche une frappe dont il a le secret.
Oh là là, et le deuxième but. Oh, c'est incroyable, c'est Yanko.
Hop là, boum. Et ça va dans la lucarne.
Le PSG avait une défense. Devant 30 000 personnes ravies, les hommes de Luis Fernandez ont trouvé une attaque.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot. Gilbert Bribois.
Il est 23h03, voilà, ça c'était l'époque avant Prime Video, avant RMC Sport, de Daniel, qui est là, Daniel Riello, plus Kevin Diaz, qui est là également. Tiens, justement, Daniel revient là, donc il a suivi depuis son transat, ou son bac là, je sais plus ce qu'il préfère, l'été de l'Olympique de Marseille. C'est l'occasion d'y revenir et d'en débattre ensemble au 32-16 Jingle Riolo.
Une étendue de 125 transats alignés.
Je ne suis pas vraiment transat, je suis plus les lits, tu sais.
35 lits, les pieds dans le sable.
Complètement allongé, pas avec les pieds dans le vide.
Comptez tout de même 60 euros pour un lit comme celui-ci.
Oh là 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 là
c'est bien aussi de pas chercher à pouvoir dire du mal quand c'est que positif.
Il y a vraiment aucun problème avec Jim, on sait très bien qu'il répondra toujours présent sur le terrain.
Mais non, arrête, franchement je m'en vais, arrête de dire ça.
Voilà, c'est le plus long de tous les jingles de la terre.
60 euros le lit.
Non, je ne vais pas sur les plages à 60, je vais pas à Saint-Trope hein, quand même.
Ouais, Saint-Trope, c'est plus que 60 euros, mon gars.
Mais 60 euros, c'est pour la semaine.
Alors là, on peut négocier, alors. Dans ce cas, c'est mieux.
Donc, tu voulais parler d'abord de Longoria, et après, on va
C'est
partir
peut-être
sur Tudor.
Tu me diras que ça a été animé également au PSG, mais c'était plus attendu. L'intersaison de l'OM, c'était pas attendu. Du tout, que ce soit aussi mouvementé. Et c'est là où je me suis interrogé un petit peu sur Longoria en me posant la question, mais à quoi il joue Longoria? J'ai du mal à cerner son ambition finalement, parce que il avait commencé à construire une histoire intéressante depuis qu'il était arrivé et qu'il avait continué la saison dernière avec Sampaoli, où il avait créé un lien d'affect entre le public marseillais, cet entraîneur, cette équipe qui a souffert, qui a offert une saison pleine d'émotions, qui s'est terminée dans la joie. On a l'image de lui en tribune, toujours exalté quand l'équipe marquait, et les gens autour de lui étaient très heureux. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Il y a eu des soucis, il y a eu des déceptions, mais au final, ça s'était bien terminé. Et quand une histoire prend comme ça, ben on s'attend à ce qu'elle continue. Et finalement, elle s'est achevée sans que personne, finalement, n'ait versé une larme. On sait maintenant, avec le recul, que Sampaoli a probablement pensé durant la saison à s'en aller parce que il sentait que, de toute façon, le jeu de Mécano et de transfert, de mercato agité allait continuer, qu'il ne pourrait pas s'appuyer sur l'équipe qu'il avait bâtie, construite, renforcée par de nouveaux éléments pour être, finalement, un acteur important, si bien de la Ligue 1 et pas ridicule en Ligue des Champions, parce que je pense pas qu'il imaginait aller très loin, mais peut-être, en tout cas, pourquoi pas, sortir de la poule, en tout cas, exister à nouveau. Et tout ça s'est cassé la gueule d'un coup. Et on a le sentiment, en fait, que, bah, pour en revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, Kevin, dans l'introduction, comme si ça ramenait l'OM et beaucoup d'autres clubs français à ce qu'ils doivent être contre leur gré, ou en tout cas, bon gré, mal gré, j'en sais rien. Mais juste des clubs de passage, quoi, où on essaye des joueurs, où on tente des paris. Moi, j'en peux plus d'entendre c'est un pari.
Club tremplin.
Moi, j'en peux plus d'entendre on a fait un pari. Tu vois, un directeur sportif, un président, il fait pas un pari. Un pari à pour faire revenir un joueur, une vieille star, pour en recruter, donner un gros salaire à un mec, sans savoir s'il va être bon et tout. Juste, c'est un pari. Non, c'est pas un pari. Normalement, ça veut dire que t'as des billes sur le joueur, tu sais où tu vas, tu sais où tu mets les pieds. Tu peux réussir ou te planter, évidemment. Mais le mot de pari, comme si tu le fais comme ça en lançant la pièce, tu dis, non. Bon, bref. Il y a des paris, il y a des recrutements. On a tout chamboulé, finalement. On a tout chamboulé à l'OM. La défense de l'année dernière n'existe plus. Les joueurs offensifs de l'année dernière n'existent plus puisque, Milik, qui était justement très discuté, semble être devenu, à moins que d'ici fin août, il soit vendu, hein, ce qui n'est pas impossible. Mais semble être devenu titulaire indiscutable. On empile les joueurs. On empile les joueurs. Vraiment, on empile. Moi, les joueurs offensifs, là, quand j'ai vu qu'Alexis Sanchez arrivait. Bon, alors là aussi, pareil. Hein, le pari Alexis Sanchez, je lui souhaite de réussir. Hein, c'est un mec qui a un profil OM et tout. Mais enfin, bon, un mec dont le prime est dépassé depuis 5 ans. Je trouve que c'est très bizarre. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre à prendre? Franchement, je ne sais pas si Alexis Sanchez se fera. Je souhaite. Hein, je vais peut-être dire un gros mot, mais j'espère qu'il fera aussi bien que Bakambu, tu vois.
Est-ce que tu me permets de dire que c'est un pari?
Ben, c'est pour ça que j'en ai marre de ces paris. Donc, on ne sait pas réellement comment ça va jouer devant. On ne comprend pas encore bien comment ça joue parce que donc il y a eu un nouvel entraîneur et puis en plus, c'est pas qu'on a pris un nouvel entraîneur, c'est qu'on a pris un nouvel entraîneur qui a les méthodes opposées à Sampaoli. Donc, t'as tout un groupe qui a été habitué à un mode de fonctionnement et les modes de fonctionnement façon Sampaoli sont tellement particuliers que pour en sortir, c'est un peu compliqué hein, dans le rapport humain, dans ce que tu fais sur le terrain, compliqué. Les vedettes de l'année dernière. Bon, bah, Saliba est parti. Camara est parti, mais je parle de ceux qui sont encore là. Donc, Guendouzi. On voit qu'il est perdu, Guendouzi. Il est plus, il va falloir qu'il.
Il a été meilleur contre Brest.
Voilà, je vais pas dire il est plus bon parce que ça vient à peine de commencer, mais on voit qu'il faut qu'il se réadapte. Donc, un mec que t'as relancé complètement, qui a fait une saison où lui, par exemple, a créé un fort affect avec le public marseillais.
Et avec l'entraîneur précédent.
Voilà. Donc là, il faut qu'il reparte à zéro. Payet, au revoir. Au revoir. L'idole, le capitaine. Alors, on sait, deuxième saison, elle a été compliquée. On sait que dans certains systèmes de jeu, il ne peut pas jouer. Et j'ai même peur que ça tombe sur le système Tudor. Parce que je ne vois pas comment Payet va pouvoir, à terme, Tudor, il a beau dire, il s'est bien entraîné, il sait bien ceci, c'est bien cela. Et Payet, il y a un truc, il ne marche que quand, avec l'entraîneur, il y a une relation forte, d'affect, 100%. Sinon, il y a toujours un problème. Il peut y avoir une ou deux intincelles, mais il y a un problème. Et honnêtement, je pense qu'on va aller au-delà du problème. Je ne sais même pas s'il sera titulaire. Je pense qu'il risque d'être écarté. Et lui, il risque de prendre le bourdon bien comme il faut, coup de blues. Pas sûr qu'il revienne. Donc voilà, on a empilé des joueurs à plein de postes. On ne sait pas bien. Bon, en plus, je ne dis pas que ça ne va pas marcher. Ça va mettre peut-être un petit peu de temps. Sur ce que je vois là, ce n'est pas terrible. Hein, contre Brest, la deuxième mi-temps, franchement, Brest est au-dessus, ce qui n'est déjà pas vraiment normal. On est allé se taper des histoires compliquées. Donc Tudor embrouillé avec les joueurs. Bon, il semblerait que ça se soit résolu maintenant parce qu'on s'est parlé. Bon, on s'est fait le recrutement vers tout. J'en ai parlé sur Twitter quand j'existais encore sur ce réseau. Et moi, j'aimais beaucoup ce joueur. Vraiment, je connaissais pas cette histoire. Moi, elle me dérange. Elle me dérange humainement. Bon, bah maintenant il est là, on va.
Et puis footballistiquement, pareil. Vers tout le prime, il est passé. Il est peut-être moins loin qu'Alex Sanchez, mais c'est pas un joueur qui arrive en plein.
Je peux encore croire qu'il puisse encore tirer quelques cartouches. Mais globalement, tout ce chamboulement et pour conclure, eh bien Longoria qui voulait absolument récupérer son ami Ribalta. Je me demande si, parce que vous vous souvenez que Longoria, quand il est arrivé, on parlait beaucoup justement de ce côté-là, la directeur sportif, football manager. Il faudrait pas qu'il prenne l'OM comme un football manager géant, quoi, au final. Lui qui n'était pas destiné à être président, qu'on aime beaucoup, qui est assurément intelligent, qui dit plein de choses fantastiques sur le football, mais que ce duo-là se mette à sans arrêt jouer et gérer un club de foot comme justement football manager.
Il y a un truc, Daniel.
C'est un peu compliqué pour la relation que tu crées avec.
Prenons les dossiers les uns après les autres. Démarrons sur Longoria. Parce qu'il y a un truc assez étonnant depuis quelques jours. C'est qu'il y avait une sorte de hype Longoria total. Et là, les dossiers sortent. Enfin, les dossiers sortent. Ça cumule. La liste des choses mal gérées est mise en avant. Ouais. Alors, Camara vendu, enfin pas vendu en l'occurrence.
Oui, en gros, l'idée c'est qu'il ne vend pas quoi. Il claque l'oseille. On dit que McCourt, mais McCourt il met l'oseille. Mmh. L'oseille elle est claquée à l'OM.
La gestion Mandanda avec le recul, on se dit bon en fait il a ramené un concurrent à Mandanda qui en fait est moins fort et maintenant t'as plus Mandanda et puis t'as deux gardiens moins bons que
pour
Mandanda.
Le coup, ça c'est Sampaoli. Hein. Mais Sampaoli qui a demandé un autre gardien.
Qui a validé ça?
Un peu fini déjà, même si sur la fin de saison.
Bon, puis t'as la liste des joueurs qui sont venus, qui se sont avérés nuls, les Amjam, Nagatomo et autres.
N'oublie pas quand même Kolasinac.
Kolasinac.
Cuisance, je comprends le pari pour le coup. Mais Kolasinac, là, c'est plus un pari. Kolasinac, c'est faire all-in avec 2 et 7, mais tu montes tes cartes en plus. C'est-à-dire que voilà. T'avais aucune chance que ça marche.
Et alors, en tout cas, sur Longoria, j'ai par exemple Thibaut sur Direct Jeu qui me dit coup de gueule sur le Longoria bashing qui est en train de s'instaurer dans les médias français depuis une dizaine de jours. Je ne comprends pas. Il est loué partout en Espagne, en Italie et même aux États-Unis dans les journaux sportifs. Et en France, tout à coup, tout le monde se met à le fracasser.
Non, moi, moi, je viens de dire mes dernières phrases ont été c'est toujours quelqu'un qui, quand il parle football, est intéressant. Je continue à lui accorder beaucoup de crédit. Il y a des phrases marquantes, genre le président, la hiérarchie, là, il veut gérer ça à l'italienne. Le président, le directeur sportif, l'entraîneur et après les joueurs. Donc les joueurs, un peu comme. Justement, il faudrait pas qu'il abuse trop dans l'idée que ce sont des pions, parce que c'est eux quand même qui créent le lien avec les supporters et cette histoire de l'année dernière de certains joueurs, de cette équipe-là avec le public, elle était forte. Et là, il faut tout recréer. Et si tous les ans tu recrées, t'es un bon président. C'est que l'OM, cette année, bon, n'arrive pas forcément à briller en Ligue des Champions. Bon, ça changera pas des autres clubs français. Et refait podium, il revient en Ligue des Champions et puis il rechange, il refait le grand chambardement. J'enlève des joueurs. C'est ok, très bien, mais je trouve pas que ce soit des histoires magnifiques de faire ça. Il faut créer une histoire avec des joueurs qui restent un peu identifiés. Mais je sais que le football, surtout en France maintenant, il est comme ça.
Voilà. Et ce que tu viens de te dire, en fait, j'ai pris des petites notes. Pendant la vie de Daniel, parce qu'il était un peu long,
Parce que tu fais jamais des avis longs, toi.
Moi?
Bah non, mais il est gonflé.
Bien sûr, ça arrive. Non, mais ouais. La première note que j'ai prise, c'est réalité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un problème avec d'être confronté avec cette réalité. Ce que vient de dire Daniel à la fin, il y a quelques secondes, il vient de dire, je sais que maintenant, dans le football français, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ni la presse française, ni les supporters, ni même certains acteurs, même qui sont à l'intérieur, ne veulent accepter ou au moins dire quelle est la réalité du football français. Et c'est ce que je disais en préambule dans l'after. Aujourd'hui, le championnat français est un championnat de deuxième division européenne. Et il serait peut-être temps, la seule chose où les Français sont presque au même niveau que les Italiens, que les Espagnols, voire même que les Allemands, c'est au niveau des salaires. Les meilleurs joueurs en France, je parle même pas du PSG, mais le PSG aussi a ce problème-là,
ont
des gros salaires. Mais le souci, c'est que tu ne peux pas, dans un championnat de deuxième division, avec des joueurs qui ont des salaires de première division européenne. Parce que ce qui se passe, c'est que, et ça se passe même au Paris Saint-Germain, quand le joueur, tu n'en veux plus, personne ne peut te l'acheter. Donc, je le dis, je le répète, je l'ai dit tout l'été, je veux bien qu'on critique Leonardo, je veux bien qu'on critique Longoria, ou qui vous voulez, dans le foot, dans les directeurs sportifs ou les managers de clubs français, mais à partir du moment où certains présidents, certains décisionnaires ont décidé d'accorder de tels salaires à des joueurs de Ligue 1, il ne faudra pas reprocher au suivant de ne pas pouvoir le vendre, parce que c'est impossible. Le joueur ne va pas s'asseoir. Je répète, c'est un exemple, je pense, qui est marquant. Kevin Strootman, j'ai joué contre lui au Sparta Rotterdam, il devait avoir, je pense qu'il avait 150 000 euros par an, d'accord ? Ensuite, il est parti à Utrecht, il devait peut-être avoir 3, 4, 500 000 euros par an maximum. Aujourd'hui, à Marseille, il a ça par mois. Comment vous voulez que le mec dise « Non, mais moi, je m'en veux, les gars. Moi, j'arrête le foot. Je vais faire ma passion. » Mais Kurzawa, c'est pareil. Les mecs, ils ont des salaires. Qui peut reprocher à ces mecs-là de vouloir prendre leur argent ? Personne ne peut leur proposer la même chose.
Ah si, donc, si, moi, ces gens-là, je leur reproche.
Tu peux leur reprocher si tu veux, Daniel.
Leur reproche
je leur reproche pas.
De pas aller prendre un petit peu moins à côté. Et
là, c'est pas un petit peu moins, Daniel. On va te proposer la moitié.
Et d'exercer ta passion, parce que
on te parle de proposer la moitié.
Normalement, t'es censé être un joueur de foot. T'as envie de jouer au foot. Okay. T'as pas envie de faire une vie sur un banc.
Donc
Kevin, moi, ce que fait Kurzawa, pardon, je ne comprends pas.
Okay. Et Kevin, je ne comprends pas. 500 000 euros par mois. Tu veux qu'il aille jouer ? On peut aller proposer peut-être 50 ou 100 000.
C'est encore bien différent. Strootman, il peut plus jouer au foot. Il s'est cassé les deux genoux. Il n'y arrive plus. C'est compliqué. Mais un jeune joueur qui était aux portes de l'équipe de France, qui y était même, qui était probablement le meilleur latéral gauche du football français, qui refuse de jouer, juste prends l'oseille, et c'est pas sa passion de jouer au foot et d'aller montrer ce qu'il est capable de faire.
Et à un moment, ça devient un métier, Daniel. à ces niveaux de rémunération.
Ton métier, c'est de rien faire.
Non, ton métier, c'est t'as signé un contrat.
Pour moi, c'est une mentalité.
Le club ne veut plus t'utiliser.
Kevin, il va pas aller jouer pour le SMIC hein, s'il va ailleurs. Hein. Il va pas être smicard. Hein. Il va jouer pour la même chose quasi. Hein.
Oui, mais c'est pareil pour Herrera, c'est pareil pour tous ces joueurs-là. Pourquoi Wijnaldum accepte d'aller à la Roma? Pourtant, c'est un magnifique club avec un très beau projet, mais parce que le PSG paye une bonne partie du salaire. Sinon, il n'aurait pas voulu baisser son salaire.
Je pense pas que ça ne soit que pour ça. T'as aussi des agents autour.
Oui, mais sûrement. Et puis tu fais vivre une famille.
Un joueur de foot, 500 000, 400 000 ou 350 000, va jouer au foot.
Pour moi, ça reste difficile, je pense. En tout cas.
Je ne le comprendrai jamais.
Tu peux ne pas le comprendre.
Allez, revenons à l'OM, les gars.
Voilà. Juste pour finir sur l'OM.
Et ensuite, pause fraîcheur, de la deuxième de la
juste,
soirée.
Juste
et
on accueillera. Ils ont fait une pause fraîcheur en Ligue 1, il faisait 21 degrés. On en est là maintenant.
Tu me permets une parenthèse? J'en en peux plus d'entendre. Ah ouais, mais il fait chaud. Mais il fait chaud. Alors, on est en été. Oui, le principe de l'été, c'est qu'il fait chaud. Et quand t'es un athlète de 20 ans, joué par 25 degrés, franchement, il n'y a aucun problème.
Non, en ce moment, c'est la mode du il fait chaud.
Mais par contre, quand il fait moins 10, là, ça ne dérange personne.
À 31 degrés, là, je vais pas
juger parce que moi.
C'est panique à bord. Là, maintenant, c'est la mode. C'est, qu'il fasse
je
ne
sais pas si toi, au tennis, ça te fait rien. Mais moi, franchement, jouer au foot à plus de 26, 27 degrés, honnêtement, c'était compliqué. Surtout avec la préparation que tu dois encaisser.
Va vivre en Finlande.
Non, mais Daniel, tu dois encaisser une préparation. T'es pas encore au top de ta forme.
Ce que j'ai, moi, je joue sans problème, sous la chaleur.
Peut-être, mais en tout cas, moi, je reprocherais pas aux footballeurs d'avoir du mal à jouer.
À 21 degrés, t'as besoin d'une pause fraîcheur.
À 21 degrés, je t'ai parlé de 27 degrés.
C'est ce qu'ils ont fait ce week-end. J'ai vu des pauses fraîcheurs à 22.
Et le confort des spectateurs, on en parle. Tu préfères aller voir un match quand tu fais 25 ou quand tu fais moins 10?
Non, mais bien sûr.
Moi, je préfère quand tu fais 25.
Et je te dis pas ça, Daniel, Gilbert. Mais je te dis que c'est vrai que moi, pour moi, je trouve que jouer 90 minutes sous le cagnard, les premiers matchs d'été, honnêtement, c'est compliqué.
On a vu la Coupe du Monde aux États-Unis. Ça
donc, pause fraîcheur.
Là, franchement, la mode, t'as la lamentation. La mode est uniquement axée sur la plainte, le petit confort, le gars qui ne veut plus rien foutre. Mais si, c'est une tendance. C'est une tendance. C'est comme quand tu vois les reportages.
Il y a une canicule quand même.
Non. C'est une tendance. C'est comme je regardais un sujet aujourd'hui sur les agriculteurs qui manquent de main d'œuvre pour ramasser les fruits. Où ça va arriver quand tu auras les vendanges au mois de septembre. Avant, c'est les étudiants qui faisaient ça. T'en as plus un seul. Ils n'y vont plus les étudiants. Ils ne bossent plus. Moi, tous les étés, pendant 10 ans, j'ai fait que bosser. Des boulots, mais...
Chez Cracotte, par exemple.
Moi aussi.
Par exemple.
Moi aussi.
Ouais, aujourd'hui, c'est terminé. Les mecs préfèrent...
Les mecs préfèrent
ne plus bosser, ne plus rien foutre.
C'est notre éducation qu'on donne à nos enfants, Daniel.
Cette mentalité-là, elle se répercute à tous les niveaux de l'échelle sociale.
Mais Daniel, on fait des enfants gâtés.
On se plaint en permanence, c'est le pays des lamentations.
Allez, dans quelques instants, on revient à l'OM. On va voir si Alim se lamente, lui qui est supporter de l'OM.
Ça, je pense que pour
16.
Un tel propos, là, en temps normal, mon Twitter aurait pris feu. Mais c'est fini.
Allez, à tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, il est 23h21. On évoque le début de saison marseillais. Alim, au 32-16, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Alim. Ça va et toi?
Hey, Alim.
Ça va très bien. Ça fait plaisir de vous parler.
Ah bah première. Écoute, tu es le bienvenu. C'est la première fois que tu es dans l'After?
C'est ça, c'est la première fois.
Oh là, t'imagines ça, la pression que t'as là, faut que ce soit bon. Hein. Là, j'imagine, il y a les potes qui écoutent et tout. Hein. Si c'est pas bon, ils vont te.
Il y a même Longoria qui t'écoute.
Comment?
Il y a même Longoria qui t'écoute.
Ah bah, c'est pas mal, comme ça, il va bien entendre les supporters. Il va bien.
Ah. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as entendu pour l'instant là?
Pas trop. Un peu, je suis d'accord sur le mercato. Mais je pense que c'est pas trop la faute à Longoria. Je pense que c'est plutôt il manque de l'argent. Il n'y a pas assez d'investissement. Il fait avec. Donc il se débrouille, il ramène des joueurs. Et je suis d'accord aussi sur les salaires. Je pense qu'il y a des joueurs qui prennent des gros salaires.
Et bah donc ça veut dire qu'il y a de l'argent. Alors Alim, c'est contradictoire ce que tu nous dis. Moi je pense que de l'argent il y en a. Ils en donnent des gros salaires. Et surtout ils ont énormément de joueurs.
Et bah, je pense que c'est mal géré. Alors on devrait mettre des gros salaires sur de plus jeunes joueurs qui plus expérimentés, de bons joueurs que sur je pense que Bakambu il prend un gros salaire et c'est pas trop ça. Je pense que c'est mieux de garder Djeng par rapport à Bakambu.
Sur Longoria, toi tu dis quoi?
Je lui fais confiance. Il est arrivé l'année dernière, il a ramené de bons joueurs, on a pu se qualifier en Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi.
Ah oui, non, là, il faut lui continuer à lui faire confiance, bien sûr. C'était pas du tout mon propos. Hein.
Mais tu sais,
à limite. Il a quand même redonné vie à ce club.
Tu parles de Dieng. Et beaucoup de supporters marseillais parlent de Dieng. Mais vous pensez pas que dans le meilleur des mondes, Longoria, il aurait voulu garder Dieng? Mais aujourd'hui, pourquoi il met Dieng sur l'étalage? C'est parce que c'est le seul joueur qui a de la valeur marchande. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je reviens à mon mot fort de la soirée. C'est la réalité. Marseille est dans une réalité. Daniel parle de Football Manager, mais il est obligé de jouer à Football Manager parce qu'il n'a pas l'enveloppe qu'a eu Héro. Il est obligé de faire avec des bouts de ficelle. Daniel n'aime pas ce mot-là, moi non plus, mais il tente le pari Bakambu, il tente le pari Kolasinac, même si moi, ça, celui-là, j'ai du mal à l'avaler. Mais bon, bref, il l'a tenté.
Non, mais le pari, derrière, quand c'est gratos, on va dire que ça te coûte
mais
pas. Ce
que
tu dis,
mais ça, c'est des joueurs gratos que j'ai cités. Mais qui est-ce qu'il a vraiment acheté très cher?
Tu donnes des salaires. Alexis Sanchez, tu lui donnes quoi? Une poignée de figues? Et tu lui donnes un salaire par mois?
Vu le prix des figues, ces temps-ci.
Je sais pas pourquoi tu achètes des figues en ce moment, c'est pas encore complètement la saison.
Ça commence à arriver les figues.
Un peu la fin du mois.
J'en ai chez moi. J'ai un beau figuier, je te ramènerai des figues demain.
Moi aussi,
les figues, c'est devenu hors de prix.
Alors je t'en apporterai parce que dans le jardin de mes parents, il y en a un très beau et qui donne des fruits magnifiques, je t'en apporterai.
Voilà. Et donc je te disais juste à Alim que malheureusement c'est la situation aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Je pense que Longoria, il fait des erreurs comme tout le monde, mais il fait surtout avec ce qu'il a. Van Bomba Dieng, je pense que s'il pouvait faire autrement, il le ferait, mais là c'est le seul joueur qui a de la valeur marchande. Et quand on me dit Longoria il vend pas, je demande qui peut être vendu. Je pense qu'attention, Milik en ce moment, il n'est pas au niveau qu'on pourrait attendre. S'il y a une offre qui arrive demain, mais Milik, il va l'emmener à l'aéroport, à Marignane. Il n'y aura pas besoin de Titi. C'est toi le boss. Hein. Milik, il va partir tranquillement, vous inquiétez pas. S'il pourra vendre quelqu'un.
Mais Titi, c'est toi le boss, il sera là avant Longoria à l'aéroport.
Ah, c'est possible.
Il disait Alim, il voulait parler, je crois.
Ouais, moi, je voulais dire que. Moi, je pense qu'il faudrait prolonger Bamba Dieng, lui faire confiance, lui donner du temps de jeu. Je pense qu'il peut s'affirmer sur le terrain. Il a un très bon niveau.
Il faut vendre. Qui est-ce que tu vends si ce n'est Bamba Dieng?
Je vendrai Milik, comme tu as dit, Milik.
Oui, mais Milik, je te le dis, si Milik n'est pas vendu, c'est qu'il n'y a pas d'offre.
Bamba Dieng, tu risques d'avoir une offre, pas l'autre.
Il n'a pas su s'imposer à l'OM. Donc je pense qu'il faudrait
le vendre. D'accord, Alim, mais s'il n'y a pas d'offre, qui est bankable aujourd'hui à l'OM? Je ne te parle pas de Van Gendouzi, c'est un titulaire indiscutable. Il n'y a aucun joueur qui n'est pas vraiment titulaire qui a une valeur marchande telle que 10 millions d'euros comme Bamba Dieng. Sinon, si ça avait été le cas, il les aurait vendus. Hein. Si demain, quelqu'un vient pour prendre Kolasinac et qu'il leur donne 3 millions d'euros, Marseille va le laisser partir, hein. C'est sûr. Mais il y a un moment, malheureusement, il y a eu des erreurs dans le passé, il y en a eu peut-être aussi à moyen terme, mais je pense vraiment qu'il fait de son mieux. Ce que disait Daniel, par contre, c'est autre chose. Sur le fait d'avoir pris un entraîneur qui est en totale inversion par rapport au projet de Sampaoli.
Et de la façon de jouer.
Voilà.
Et
là, du coup, tu as peut-être besoin d'autres profils.
Et si on garde Bamba Dieng, par exemple, moi, je pense que si on garde Bamba Dieng, il peut prendre aussi une plus-value après une année.
Mais pourquoi vous êtes tombé amoureux à ce point de Bamba Dieng? C'est pas non plus une bombe atomique. Hein. C'est pas. Franchement,
Mais il y a du potentiel, on l'a vu.
Bon, j'en suis pas complètement certain, moi. Techniquement, c'est faible. Hein.
Techniquement, c'est faible. Cet attaquant de pointe, on attend juste de lui qu'il marque des buts.
Non, ça c'est une très très mauvaise idée que tu as. L'attaquant de pointe, il faut qu'il soit technique. Hein. Non. Moi, je trouve que techniquement, il est faible.
Techniquement, c'est quoi? C'est pas trop d'accord. Moi, je pense qu'il marque des buts. Il a marqué des buts.
Bah, quel but il marque quand? Enfin, c'est pas non plus. J'ai l'impression qu'on laisse partir un mec qui a mis 25 buts par saison pendant 10 ans.
Non, c'est pas ça. C'est que Bamba Dieng, il vient d'une académie. Donc, du coup, on l'a eu gratuitement. Il prend pas un gros salaire. Pourquoi le faire partir maintenant?
Bah, parce que si tu le vends 20 millions, c'est 20 millions tout frais.
C'est 10. C'est 10 millions, mais même 10 millions, mais je viens de
10,
te dire.
C'est tout frais.
Je suis obligé de te le répéter, Alim, mais il y a un moment, 10 millions pour Bamba Dieng, sachant qu'encore une fois, je te le répète, il n'y a pas beaucoup de joueurs à l'Olympique de Marseille sur lesquels tu peux prendre un transfert. Et n'oublie pas que McCourt doit, peut-être pas tous les jours, mais doit aussi rappeler régulièrement à Longoria que l'OM a besoin de vendre pour équilibrer un peu les comptes. Voilà, je le répète, c'est la réalité.
C'est de l'économie.
Alim, merci beaucoup. Ça me permet de passer un petit message pour ceux qui parfois hésitent à faire le 32-16. Vous voyez, c'est très simple. Alim a fait le 32-16 et pam, en 5 minutes, il est à l'antenne avec nous pour parler de l'OM. On m'envoie le prix du kilo de figue au marché de Rungis, prix de gros. La figue bio, combien? 10 euros le kilo, hors taxe.
10 euros le kilo.
10 euros le kilo. Incroyable.
La bio. Eh, mais la mienne, elle est bio. Hein.
Bah oui, moi, elle est du jardin.
Je peux peut-être faire un business.
Elle est bio aussi.
Bah, 10 euros.
Je peux faire du business.
Pardon,
hein.
Moi, j'en mange pendant les vacances en Italie, c'est gratos.
Ah, ouais.
Et c'est tellement meilleur.
Moi, j'en mange pendant les vacances à Saint-Maur-des-Fossés. Hein.
Excuse-moi, elles prennent pas le même soleil, hein, pardon. Mais...
Elles prennent pas le même soleil sur les trois derniers mois.
Elles prennent pas le même sommeil, voyons.
Mais voilà, l'Italie, c'est toujours mieux.
Bah oui, le soleil est mieux en Italie, bien sûr.
Il y a des fruits qui ont besoin de beaucoup plus de soleil sur la durée.
Mais moi, il y a beaucoup de soleil à Saint-Maur. Oh. Microclimat.
Ouais, d'accord. Allez, ok.
Allez. Surtout côté
plaisante à Daniel. Daniel, là,
côté
je plaisante.
Il y a plus de.
Daniel, il faut pas rigoler avec l'Italie. Moi, je suis en train de plaisanter, mais en sérieux, lui.
Non, c'est pas ça. Avec la bouffe. Rien à voir avec l'Italie.
La bouffe et l'Italie, alors.
Oui, mais parce que les deux sont très liés. On rigole pas trop avec
une fois, j'ai dit à une maison que tu m'avais dit que l'Italie c'était la plus grande gastronomie au monde. Il me le sort à chaque fois. Bah, ouais, mais toi, vrai. Tu travailles avec un mec qui croit que l'Italie c'est la plus grande gastronomie au monde.
Ah, c'est juste factuel. Il faut que tu leur renseignes un petit
c'est
peu.
C'est pas la française.
Depuis très longtemps, non. Mais visiblement, il faut être un peu au courant.
Bon, constatons quand même une information de l'été que Domino's Pizza a fermé en Italie.
Ah,
bah, personne n'y allait.
Ça, c'est, ah bah oui. Ça, c'est des,
au pays
ça,
de la pizza, tu vas pas chez Domino's.
Tu vois, ça, c'est la preuve d'un pays de gastronomie ou d'un pays qui ne l'est pas. C'est ici, ça cartonne.
Il y a des McDo en Italie, hein, j'y étais. Hein.
Et ça marche très mal.
Ah ouais?
Bah, renseigne-toi et tu verras qui y va surtout. T'y es allé?
Non, j'ai pas été personnellement. Je vais pas en Italie pour aller au McDo, mais ah j'ai vu des McDo.
Non, mais les touristes, ils vont. Ouais. Voilà. Mais.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fast-food.
Eh oui, mais c'est normal.
Allez, dans quelques instants, on revient à l'OM avec Antoine au 32-16. On va parler de Tudor. Est-ce qu'il faut y croire? Vu l'été qu'il traverse, Tudor au programme de l'After avant de te reparler Mercato, c'est dans quelques instants.
RMC, 20h30,
l'After Foot,
Gilbert Bribois.
23h31, Kevin Diaz et là, Daniel Riolo est là également. On continue le débat sur l'OM, mais on va se concentrer maintenant sur Igor Tudor. Antoine est avec nous au 32-16. Salut Antoine.
Salut l'After, hyper content pour ma première fois de discuter avec vous.
Ah, ben on est ravis d'avoir des nouveaux intervenants au 32-16.
Ah, j'ai appelé quelques fois, c'est la première fois, je suis hyper content.
Ah bah écoute, c'est cool. Bah, tu sais, ça me permet de placer, souvent on me reproche, on dit ouais, vous passez toujours les mêmes, etc. Mais parce qu'en fait, ils appellent.
Exactement, donc... mais moi je vous reproche rien, je suis juste hyper content les mecs.
Bon, très bien. Il y a même un site satirique marseillais qui... qui est très bon d'ailleurs, je les ai cités hier, là, droite au but, qui parle, en parlant de Mousse, hein, l'auditeur qui parlait également, il disait l'auditeur salarié des REMC. C'est n'importe quoi.
Mousse, cet été, il n'a pas fait que des contents.
Bref, bon, c'est drôle quand même. L'autodérision, il n'y a que ça de vrai. Bon, Antoine, Tudor, t'y crois, toi?
Alors, Tudor, j'y crois. J'attends de voir, honnêtement. Je vais lui donner sa chance. Je n'ai pas envie de juger en ayant vu deux matchs de Ligue 1. La préparation était, bon, dégueulasse. Là, ce qu'ils ont montré sur les deux premiers matchs, c'est pas exceptionnel, mais il faut lui donner sa chance. Sampaoli, j'y croyais pas trop non plus. Au final, ils ont décroché la deuxième place, donc pourquoi pas.
Préparation, on en a parlé pendant l'été, qui n'a pas été mise en place par Tudor. C'est-à-dire, par exemple, le fameux match contre Milan, par exemple,
oui.
qui a beaucoup déplu aux supporters, parce que bon, le résultat était catastrophique. On peut largement estimer que Tudor se serait sans doute bien passé de ce match contre Milan.
Et il a même parlé des matchs contre les
deux équipes. Qui avait été validé par Sampaoli, en fait.
Voilà. Et il a même parlé des deux matchs contre les équipes de Championship, des deux anglaises qui ont encore joué aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que c'est une division où il y a beaucoup d'équipes, où il y a beaucoup de matchs et où les équipes sont prêtes beaucoup plus tôt.
Ouais.
Donc au final, il s'est tapé des équipes qui étaient en avance dans leur préparation et il avait dit aussi que ce n'était pas les équipes qu'il préfère. Parce que je crois qu'en Italie, un peu comme moi, ce que j'ai connu, on commence, Daniel, tu m'arrêtes. Mais il commence par des toutes petites équipes au début, sur les premiers matchs pour se roder,
oui,
etc.
Même, ils font exprès de bien coller des grosses raclées.
Voilà, nous aussi, c'était du 10-0, il ne fallait pas prendre de but, etc.
Enfin, l'OM l'a fait, le premier match, c'était contre
National
Marignan, je crois.
Ouais, bon, une National 2. Là, je te parle même, tu peux jouer contre une équipe quasiment de ligue ou de district, quoi. Une toute petite équipe, histoire de faire tes maîtres et vraiment travailler physiquement. Mais c'est vrai que la préparation n'a pas été choisie par Igor Tudor et je pense que ça a dû changer pas mal de choses.
Bon, donc toi, le style Tudor et tout, Antoine, tu dis attendons et puis on verra.
J'attends de voir pour l'instant. Dans son style, dans le système de jeu qu'il veut mettre en place, on a quand même pris, et ça c'est la bonne nouvelle du Mercato, deux pistons de grande qualité. On va en avoir besoin. C'est à peu près la seule bonne nouvelle. Je pense que Veretout va faire le taf aussi à la place de Camara, même si c'est un peu moins fort que Camara, ça va faire le taf. Par contre, là où je m'inquiète énormément, c'est bon, défense centrale, honnêtement. Gigot, bon, ça peut faire le taf. Mbemba et Balerdi.
Mais Gigot, je vous le connaissiez avant?
Non, je le connais pas. Mais
bah
non,
c'est ça aussi, ça fait partie des nouveautés dans notre football. C'est on prend des mecs qu'on connaît pas. Normalement, ouais, tu avais toujours des références sur les gars. Là, les mecs, on connaît pas, et d'un coup, eh ben voilà que t'arrives, t'es en défense centrale d'un club important.
Il était dans un championnat quand même cohérent.
Il était dans un championnat cohérent, et puis faut quand même pas oublier qu'on a Balerdi qui serait pas titulaire à mon avis dans les équipes qui sont maintenues. Donc
quand même un mot.
Juste, moi j'aimerais.
Enfin, me dis pas que c'est.
Non, mais aujourd'hui, c'est la réalité des clubs français.
D'accord, mais enfin, t'as une défense centrale. T'arrives la saison d'après, elle est chamboulée de A à Z.
Et elle est moins forte.
Et
pour moi, elle est moins forte.
Elle est moins forte, c'est sûr.
Elle est moins forte. Parce que de toute façon, tu t'attendais
pas. Il y a que Jonathan qui dit l'inverse.
En fait, tu sais pas. Le problème, c'est que tu sais pas vraiment. C'est quand même violent de tout chambouler. Balerdi qui ne jouait plus. Hop.
Qui devrait pas jouer d'ailleurs.
Et Gigot qui arrive là.
Non mais Gigot,
il vient d'où, qui sait.
Il sort du four.
C'est pas un problème. C'est pas un problème, Daniel. Parce que là, j'ai l'impression que pour toi, c'est un problème. On peut pas avoir loué ce que font les clubs portugais, les clubs dans des divisions inférieures depuis des années. Et là aujourd'hui, que Marseille travaille aussi sur des inconnus, que certains clubs français vont chercher des joueurs dans des championnats moins connus.
T'as tout effacé. Le problème,
mais là, t'as pas tout effacé. Ah oui, mais t'as tout effacé parce que tu ne pouvais pas garder Saliba. Mais tu peux pas le garder. Si Arsenal veut pas te le laisser.
Il jouait avec qui, Saliba, en défense?
Il a joué avec, des fois avec Camara.
Il y avait Luan Pérez.
Tout ça a été rayé.
C'est pas rayé, Caleta-Tsar est là, mais Longoria a la politique de ne pas vouloir jouer avec un mec qui est en dernière année.
Moi, je te dis, on a chamboulé ce qu'il y avait sur le terrain.
Oui, mais c'est contraint forcé.
Ok, tu auras toujours une explication. Je trouve que tout ça est étonnant. T'as une équipe qui est deuxième, qui va jouer la Ligue des Champions, et tu regardes le 11 qu'il y avait, et tu regardes le 11 de maintenant, il est complètement chamboulé, t'as plus le même entraîneur, tu joueras plus du tout de la même façon.
Non mais là,
et hop, il faut continuer l'aventure. Moi, ce qui me chagrine, c'est ce manque de continuité au moment où t'avais créé quelque chose de fort.
Je suis d'accord. Et je reviens.
Tu repars dans l'inconnu. Moi, je dis pas que ça va pas marcher. C'est cet inconnu. Tous les ans, une inconnue, tous les ans. C'est comme ça que t'arrives à des équipes qui te font une bonne année, une mauvaise année, une bonne année. Et hop, voilà. Et donc, on en revient effectivement à ce statut que malheureusement on doit accepter d'être un championnat de seconde zone avec des clubs que nous on veut voir forts, comme l'OM, comme Lyon, derrière le PSG qui est dans un autre monde, et où en fait tu dis Alexis Sanchez il vient parce que plus personne n'en voulait. Il vient pour essayer peut-être
cramé. Et la semaine dernière, j'ai dit que Marseille se galatasarise.
Oui, il y a un peu de ça.
On devient des équipes comme ça.
Il y a un peu de ça avec la fête à l'aéroport pour une vieille gloire que personne n'a vu bon depuis 5 ans. Oui, alors tu as absolument raison. Quand j'ai vu la fête à Alexis Sanchez, j'ai pensé au championnat de Turquie. Tu sais, le mec qui a jamais allumé sa télé pendant 5 ans, il dit. Ah ouais, je regarde. Ah oui, c'est lui qui était bon et tout. Mais attends, t'as vu qu'il
y avait... c'est un peu pareil pour Lyon, qui fait revenir des joueurs. Ouais,
la Cazette, c'est quand même pas exactement la même chose.
Ok pour la Cazette, hein. Mais Tolisso, c'est un peu pareil. C'est un joueur qui était blessé, qui jouait pas titulaire au Bayern. Tu le fais revenir, tu donnes un beau salaire. J'espère que ça va marcher. Ils l'ont fait avec Tanguy Ndombele. Tu avais raison, ça n'a pas été la plus grande réussite.
Là, c'était vraiment sûr. T'as vu d'ailleurs, là, personne en veut.
Napoli en veut apparemment.
Ouais, on verra ce qu'il fera
là-bas. Mais quand je te dis que ce Galatasaray c'est pas forcément péjoratif, je pense qu'encore une fois on revient à une forme de réalité. La réalité du football français
si,
est que normalement.
Péjoratif, c'est les vieilles gloires, c'est les maisons de retraite.
Oui, mais ils font ce qu'ils peuvent. Il y a aujourd'hui quand même l'OM aurait pu dans un monde à peu près normal si les clubs français avaient travaillé de façon correcte.
Kevin,
tu dis toi-même que
Porto et Benfica travaillent différemment ou que PSV l'Ajax travaillent différemment.
Le PSV ils ont perdu les 4 de leurs meilleurs joueurs.
Tu sais quand même que ce sont des clubs qui ont mis
85 millions pour le PSV.
Beaucoup moins de moyens que les clubs forts français.
Je le sais. 85
et à l'arrivée au tour de barrage, le PSV élimine Monaco.
3 fois moins de budget que Monaco.
C'est très très très. Enfin, c'est frustrant, énervant, et la preuve qu'il y a un truc qui va pas. Marseille, c'est pas un club de pauvres non plus. Hein.
Je sais que c'est pas un club de pauvres, mais ils payent encore les erreurs du passé. Ça, c'est un fait.
Non, mais
aujourd'hui que l'OM ne puisse pas garder Camara, Saliba. Ces deux joueurs-là, c'est normalement, ça devrait être possible d'acheter Saliba ou de garder Camara. Après, si les joueurs veulent faire autrement ou les clubs ne veulent pas, c'est difficile.
Antoine.
Il est bien là le problème, c'est-à-dire que là par exemple, donc on va pas revenir sur Bamba Dieng, on le vend 15 millions, pas de problème. On vient de prendre 15 millions avec l'élimination de Monaco en Ligue des Champions.
Il y avait
Il y avait quand même des petits mecs comme Kalu Mwendo à prendre, eux qui sont être hyper bankable. Rennes a fait le bon coup, dans deux ans ils vont le revendre 40 ou 45.
Alors ça permet-moi, je demande à voir.
Ça c'est des coups en tout cas que j'ai envie de tenter, c'est des coups qui m'excitent plus qu'un Alexis Sanchez qui se fait résilier de l'Inter et qui arrive à l'OM pour prendre son dernier chèque 3 millions par an et qui va repartir en ayant mis 5 buts à l'année. Voilà, moi ça me fait flipper honnêtement. Voilà.
Antoine, merci beaucoup.
Merci à vous, merci l'acteur.
Et à très bientôt Antoine. Tiens, tu peux aussi nous retrouver en podcast, ça me permet de lancer un petit message sur les podcasts avec bon, les podcasts, c'est devenu évidemment crucial pour l'industrie de la radio et particulièrement pour l'After, qui est le deuxième podcast de France, le plus téléchargé. Sachez qu'on écoute vos recommandations concernant les podcasts. On a eu avec Jérôme Thomas une réunion cet après-midi avec les gens qui gèrent les podcasts RMC. Vous savez, beaucoup de gens se plaignent dans la masse des podcasts de pas trouver l'intégrale de l'After. Et ben on va faire en sorte maintenant que l'intégrale de l'After apparaisse en premier dans la liste des podcasts du jour et soit bien mise en valeur afin que vous n'ayez plus à chercher pendant longtemps pour retrouver l'intégrale. Voilà. Puis après, ceux qui n'ont pas le temps d'écouter 3 heures, et ben ils peuvent aller picorer dans les programmes découpés.
Tu sais que moi aussi souvent j'écoutais en majorité le podcast intégral, mais depuis quelques temps j'écoute aussi le découpage et franchement c'est quand même très intéressant d'avoir aussi le découpage.
Bah, si t'as qu'un quart d'heure devant toi par exemple, tu te dis ah, tiens, si t'étais supporter de l'OM, tu te dis bah tiens je vais aller écouter. Alors,
regarde, ce matin j'étais heureux de retrouver Daniel Riolo. En priorité j'écoutais l'avis de Daniel Riolo. Puis après, j'ai écouté le reste.
Avec lequel tu étais d'accord, bien sûr.
Avec lequel j'étais en complet désaccord, notamment quand il a parlé de cette fameuse Super League africaine.
Ah, la Coupe d'Europe d'Afrique.
Tu parles de quand j'ai parlé du PSG.
Non, je parlais du PSG, mais après, je te parlais de la.
Ah,
parce que je voulais dire que j'étais en désaccord. Tu sais que j'aime bien être en désaccord.
Bah, c'est le principe de l'after.
De temps en temps, c'est pas pareil.
Si tout le monde est d'accord, il n'y a plus d'after.
T'as raison, c'est vaut mieux pas que le football africain se développe. Il faut le laisser dans l'état dans lequel il est.
Non mais c'est ton truc de toujours revenir sur la Super League, t'as tes trucs comme
t'as
ça.
Raison.
T'es même pas sûr d'être à fond pour, mais t'aimes bien piquer toujours.
Il ne doit pas se développer, il doit rester comme il est.
Non.
D'ailleurs, tu t'y intéresses beaucoup, tu regardes tous les matchs, la Ligue des Champions d'Afrique, tu la regardes.
Je parle pas de la Super League africaine.
Alors, je pense qu'une compétition élitiste sur ce continent ferait du bien à beaucoup.
Non, mais toi, t'es un génie. Il t'expliquait qu'il avait écouté ton avis. Oui. Et toi, tu dis, ah bon, t'as écouté la Ligue des Champions africaine, et après, tu fais un déraisonnement sur un truc qu'il n'a pas écouté.
Sur la Super League africaine, il n'était pas d'accord avec moi.
J'étais d'accord sur le PSG, pas sur la Ligue africaine.
C'était pas à mon avis, ça. C'était à la fin.
J'aime bien comme à chaque fois, tu reviens sur ce truc. Alors, je ne sais toujours pas si vraiment tu es pour ou contre la Super League européenne, mais tu reviens toujours.
Est-ce qu'il y a un format?
Mais le format, on commence à le connaître, Daniel. Ne me redis pas qu'il n'y a pas de format.
Il n'y a pas de
format. Et la dernière fois, tu
le
dis
seul format que j'ai, c'est la Ligue des Champions européenne.
Bientôt, Gilbert, il va me dire.
Ça, je l'aime pas.
T'aimes bien l'UEFA. Mais l'UEFA, ils ont proposé ce truc horrible en réponse à la catastrophe qui était la Super League ou c'est l'inverse?
Pas exactement.
Oh si, quand même, Daniel.
Pas exactement.
Daniel, je t'ai entendu dire ça avant les vacances. Ça, c'est faux. C'est cette réponse catastrophique qu'on va avoir dans 2 ans. Mmh. C'est une réponse qui a été induite par les clubs qui ont voulu créer la Super League. Et l'UEFA, comme ils savent rien faire assez vite.
Tu veux dire que ça les a poussés à faire ça. Ah oui,
à faire ce truc catastrophique. Ouais, on est d'accord.
Oui,
nous, on voulait juste. Moi, je suis comme Ali. Nous, on voulait juste garder notre Ligue des Champions comme elle est maintenant, jusqu'à ce qu'il y ait une meilleure formule.
Ah oui, non, moi ça, j'étais d'accord aussi pour pas la bouger. Ce que je veux pas, c'est la nouvelle formule. Donc à tout prendre, j'attends le nouveau format proposé par les autres.
Allez, on va conclure sur l'OM avec Romain, qui est là au 32-16. Salut Romain.
Bonsoir Kevin, bonsoir Gilbert et bonsoir Daniel.
Salut Romain. On va conclure avec toi, donc on a débattu longuement. Qu'est-ce que tu veux rajouter ou qu'est-ce que tu veux dire pour être en accord ou en désaccord avec l'after?
On va dire un complément, je ne vais pas fâcher Daniel, c'est bientôt midi, je ne vais pas le contrarier.
Mais pourquoi complément. Contrarie-moi.
Il y a deux choses, Daniel, sur lesquelles je suis pas d'accord avec toi. Bon, une, ça se discute quand tu dis que Bamba Dieng est pas du tout technique. Rappelle-toi le ciseau à Strasbourg, rappelle-toi les.
Ah oui, je m'en souviens.
Le ciseau, c'est pas un geste technique. Hein.
Et alors, je le savais, et moi, si je commence à te connaître, je suis content de moi. Le deuxième exemple, Daniel, on est d'accord, tu le dis assez souvent, le penalty, c'est un geste technique quand même, c'est pas du hasard. À l'âge qu'il a, il va tirer pour le Sénégal pour gagner la CAN, il va tirer pour qualifier le pays en Coupe du Monde. je pense quand même qu'il mérite un peu plus. C'est pas du respect, parce que je pense pas que tu lui manques de respect, mais un peu plus
considération
de ta part. Ouais, considération. Mais non, mais, Kevin,
non, ouais, c'est toujours pareil en fait. Quand j'estime qu'il y a un excès de votre part à le voir plus beau qu'il est, moi j'ai simplement atténué les qualités que vous lui voyez, et à chaque fois dans ces cas-là, dans les discussions, ça me fait passer pour anti.
Oui.
C'est très pénible ça dans les débats, et c'est la même chose très souvent autour du PSG et tout ça, où quand on parlera de Galtier tout au long de la saison, il y aura un excès, je l'ai décrit hier soir, de soutien dans tous les médias français, et nous, en apportant simplement de la nuance, on nous fera passer pour des anti. Là, pour Bombadieng, je dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis que je lui trouve pas des qualités techniques très importantes. Ça dépend après de quoi on parle. On parle d'un attaquant de deuxième catégorie, on parle d'un attaquant pour jouer la Ligue des Champions. Après, il faut savoir de quoi on parle. Bombadieng aujourd'hui, si on fait 4 chapeaux, il n'est même pas chapeau 4.
Ah non.
Il n'est même pas chapeau 8.
Donc, je trouvais juste qu'il y avait une sorte. Après, que ce gars-là déclenche de l'affection, bon, je suis d'accord avec toi. Ce que tu as mis en avant, c'est bien, c'est un gars sympa, il se bat sur le terrain, mais je. Et en plus, par exemple, Milik, qui est bien plus technique que lui, n'a pas forcément montré des choses formidables la saison dernière.
Laisse la parole à Romain. Vas-y, Romain.
Honnêtement, Daniel, je dis pas que Tchanti Dienga, je suis un peu au-dessus de tout ça quand même. J'en suis pas à ce point-là. Je trouve juste que c'est sur ce point-là que j'étais en désaccord avec toi. Si tu me dis maintenant, Bombadieng, il manque d'efficacité devant le but, on peut être d'accord avec toi. Il lui en faut 5 pour en mettre une. Après, on préfère voir le verre à moitié plein. C'est Jerry Selle qui crée les occasions, mais j'ai jamais dit que c'était un Tchidjenga. Sur ça, vraiment, je suis pas. Et le deuxième chose où j'étais un peu en désaccord avec Kevin et toi, il y a 2-3 donnes que je voulais rajouter pour compléter le débat. Je suis pas d'accord quand vous dites que. Alors, j'ai bien aimé ton résumé sur l'été de Longoria, tout ça, honnêtement, très bien. Et après, quand vous dites on empile les joueurs, mais les gars, toi le premier, Daniel, si on va en Ligue des Champions avec un groupe de 14-15, tu vas dire, voilà, les mecs, ils y vont encore juste pour l'argent, ils vont pas la jouer, ils vont passer pour des guignols. Alors, je sais qu'on n'est pas comme ces clubs-là, mais c'est les seuls clubs que j'ai trouvé comme exemple, là, j'ai pas trop eu le temps de chercher. Mais regarde, quand au Bayern, t'as un mec comme Coman sur le banc à 10 millions par an. Quand Liverpool, il y a des mecs sur le banc qui prennent des 7-8 millions par an sur le banc. Quand t'avais Pogba sur le banc à Manchester, on disait pas, oh, putain, les mecs, regardez les salaires qu'ils donnent. Non, ils ont un gros effectif, ils gèrent un gros effectif, ils jouent 3 fois par semaine. Alors peut-être qu'on le fait mal, et je suis d'accord avec toi, donner 400 000 à Bakambu, même que le mec, tu l'as eu gratuit, de lisser une prime comme ça, je trouve ça dingue. Mais bon, personne ne nous a forcé à signer. Mais c'est bien qu'on ait autant de joueurs. Après, que tu me dises, Gigot, Touré, Balerdi, Dortmund, c'est un homme du Balerdi, ça saurait si Dortmund, ils avaient des bons défenseurs. Bon, bref, Gigot, je suis d'accord avec vous, on sait en plein, on ne sait pas d'où il sort, ça a l'air d'être un guerrier, mais bon, on peut voir ce que ça donne. Je suis d'accord avec toi, si tu me dis ces trois mecs-là, ça ne vaut pas Saliba et tu ne remplaces pas Camara. Et Camara, il prend 700 000 semaines. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il parle d'Italo de Strootman, l'exemple que tu donnais, Kevin. Camara, il sait qu'en plus de ça, à divers. Avec d'autres exemples, Van Dijk, les mecs comme Sané qui sont là, Southampton et qui ont fait un tremplin après dans un grand club.
Bien sûr.
C'est qu'en plus de ça.
Mais là, on est d'accord. Quand un club anglais se met sur un joueur, c'est fini. Le salaire qui lui sera proposé fera que tu ne pourras pas le retenir là-dessus. Exactement. Là-dessus, on est d'accord. Alors sur le point du groupe. Évidemment, si tu veux être bon en Ligue des Champions et tout, il va te falloir 22, 23 joueurs. C'est juste que je veux un peu de lisibilité. C'est là visiblement, il doit jouer avec 3 mecs. Pardon. Alors, je vais faire un parallèle avec le PSG. Regarde, il semble devoir démarrer la saison avec Messi, Neymar, Mbappé devant, avec ce trio d'attaquants. Si tu prends, il va te falloir donc, comme tu dis, pour étoffer l'effectif, peut-être 2-3 autres attaquants sur le banc. Mais que les mecs ont pas du tout le même profil que ces gars-là. Quand tu vas faire tes changements, comment ça va se passer? Je sais pas. Par exemple, imagine là, rumeur va naître dans les prochaines heures. De toute façon, je pense que la filière portugaise va faire en sorte que jusqu'au bout, ils tenteront peut-être Bernardo Silva. Imagine, tu fais venir Bernardo Silva au PSG. Aujourd'hui.
C'est titulaire.
Ok, comment? Comment?
Là, comment? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est titulaire.
Comment dans le schéma qui avait été mis en place depuis le début
déjà,
de la saison?
Déjà, il peut jouer à la place de Messi, déjà.
Alors, moi, je te dis, c'est une super idée parce que j'adore ce joueur. Mais en fait, quand tu fais venir les joueurs, il faut voir.
Mais je vois ce que tu
comment il prend la place de l'autre au moment où il va rentrer sur le terrain. Par exemple, là, c'était quoi le dernier match de l'OM? Donc, t'avais Milik devant, c'est pas Under qui a commencé, donc Gerson.
Si Under, il a commencé. Under et Gerson.
Exactement le même trio que la dernière fois?
Ouais. Under et Gerson.
Under, Gerson et Milik. Ouais. Donc, bon, il démarre avec ce trio-là. Bon, t'en as un qui est un peu fatigué, machin, hop. Payet, comment il rentre dans ce schéma-là? Il y rentre pas?
Il y rentre pas pour le coup. Puisque c'est.
Tu vois, il faut pas empiler pour empiler, tu vois. Est-ce que ça correspond quand un mec sort, le gars qui rentre, est-ce qu'il peut jouer dans le même schéma?
Allez, conclusion.
Par exemple, Rennes, ils prennent Calimendo qui paye très cher.
Daniel, on arrête.
Et s'ils vendent pas la board? Donc tu
non, mais ils vont vendre Guirassy.
Et tu repars. Ok. Bah oui, d'accord. Mais enfin, donc tu repars avec Terrier. Donc l'attaque de l'année dernière. Donc Terrier, Laborde, Bourigeaud. Calumendo, c'est pas du tout le même profil que Laborde.
Pas du tout. Mais il pourrait passer à deux attaquants.
Donc il faut tout changer. Donc ton schéma qui avait bien fonctionné, tu changes tout. Tu tentes quoi, un 4-4-2 alors pour le coup peut-être c'est ce qu'il fera.
Peut-être
avec Bourigeaud, Terrier sur les côtés, ouais. et deux mecs
Laborde remplaçant, c'est possible aussi.
OK, donc c'est un grand chambardement quand même, t'es d'accord. Et tu joues avec un profil qui est pas du tout celui qui t'a fait briller l'année dernière.
C'est vrai.
Donc c'est bien beau de faire des gros transferts machin, mais voilà, c'est juste, je me pose des questions sur les compatibilités et sur comment tu fais évoluer l'équipe.
Merci Romain. Dans quelques instants, le reste de l'actu du jour avec le Mercato. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois.
23h53, Kevin Diaz, Daniel Riolo sont là pour conclure définitivement sur Marseille. Petite info du jour, nouveau changement dans le staff de Tudor. Rappelez-vous de l'épisode Camoranesi, il n'était pas resté longtemps. Et là, c'est l'entraîneur des gardiens qui a été changé aujourd'hui. Alors, à l'initiative de Longoria, hein. Qui a rappelé l'entraîneur de l'an dernier. Il s'appelle Pasqua. Rien à voir avec l'ancien ministre de l'Intérieur.
C'est un grand résistant, surtout.
Créateur du sac aussi.
Grand résistant.
P-A-S-C-U-A, ça s'écrit John Pasqua, qui est donc l'entraîneur des gardiens de l'OM.
Dans les staffs, il y a aussi le nutritionniste au PSG.
Oui, j'allais y venir.
C'est dingue quand même quand on est en train de se rendre compte qu'avant c'était quoi au club. Hein.
Non, attends, Daniel, attention.
On mangeait n'importe quoi. On s'entraînait pas. On a découvert plein de trucs sur l'année dernière. Quand
le Parisien explique que le PSG a un nouveau nutritionniste, un Espagnol, ancien joueur de foot d'ailleurs. Et première mesure, ni d'iced tea, mais aussi très sucré. Attends, je donne les infos.
Je trépigne.
Oui, parce qu'il y a quand même un ancien analyste vidéo du PSG qui a publié un message sur les réseaux sociaux aujourd'hui en disant « Écoutez, moi j'ai bossé plusieurs années au PSG, je n'ai jamais vu de coca à la cantine des joueurs. »
Voilà.
Donc, s'il vous plaît,
ça voudrait dire qu'il y a du mytho? Non, hier je parlais du storytelling, ça veut dire qu'on est en train de nous mythonner. Donc,
peut-être que le nouveau, là, il est arrivé en disant « Jamais de coca au IST », alors qu'en fait, il n'y en avait déjà pas avant lui.
Pochettino, je sais que c'est un homme discret qui parle très peu, mais ce qu'il entend depuis un mois, si on lui rapporte, s'il peut être pas un câble pour venir expliquer quand même, parce que ce qu'on est en train de décrire, c'est, alors je sais qu'il y a très peu de sérieux, très peu d'exigences.
La vraie nouveauté, c'est l'obligation de prendre deux repas au club. Petit déj, déjeuner, ce qui n'était pas le cas.
Mais la façon dont on décrit, c'était le camping des Flots Bleus.
Et ce qui est le cas dans les grands clubs.
C'était un bordel sans nom. Et là, maintenant, on a l'impression que tout est réparé.
Parce que là,
il y a du mytho et du storytelling.
Moi, je veux bien.
Pochettino, vu le chèque qu'il a pris, je pense qu'il s'en fout.
Oui, il va fermer sa gueule.
Je veux bien, moi, je le dis avec grande fierté, je n'ai pas joué à des milliers d'années-lumière du niveau du Paris Saint-Germain de cette année. Mais je n'ai absolument jamais vu une canette de coca ou de iced tea ou de Fanta, ce que vous voulez, dans une cantine d'un club professionnel. Excusez-moi,
c'est un Morlusitanos.
Jamais de la vie. Là, je te parle de club professionnel pour le coup, mais même dans un club amateur, tu vas manger au Campanile ou au Novotel, on ne donne pas du coca à table. C'est quand même. Et là, franchement, j'ai du mal à croire cette info.
On est en train de vous dire que vous nous dites que c'est du mytho. Ouais.
Un petit verre de rosé.
Je ne pensais pas que c'était possible qu'on nous raconte des salades.
Que le vin rouge, bon. J'ai vu de la. Par contre, Daniel, j'ai vu de la bière après les matchs.
Visiblement, ils mangeaient des pizzas tous les jours parce qu'il n'y a plus de pizza non plus, ils ont dit.
Il y a beaucoup de grands clubs où tu as la tradition pizza après les matchs.
Oui. C'est pas grave, c'est du cholhydrate, c'est des féculents, c'est pas très grave ça.
Bon bref, enfin voilà l'histoire du...
Surtout qu'elles sont italiennes, quand on sait italienne c'est...
Non, bah là en l'occurrence c'est des dominos.
Par contre, tu sais qu'il y a beaucoup de bière aussi après les matchs, parce qu'il y a une...
Ouais, alors ça tu sais que c'est une idée reçue, la bière après l'effort, en fait c'est juste de l'alcool. Hein.
Oui, ok.
Il n'y a aucune histoire de récupération.
Okay, mais en tout cas ça...
C'est pour se donner bonne conscience.
Ça peut-être, mais j'en ai vu de la bière.
Comme il y a toutes les nouvelles mesures, il n'y a rien qui est tombé sur les cigarettes.
Ah non, là j'ai rien vu.
Sur les cigarettes, c'est rien. Non, non, non.
Mais il n'y a pas de fumeur au Paris Saint-Germain.
Non, bah non, non. Il y en a juste un qui s'est fait arrêter par un môme. Il a même pris une leçon de morale par un môme dans une bagnole. Ah, un paquet par jour, c'est pas. C'est logique. Il n'y a rien qui est tombé sur les parties de poker et tout.
Non plus. Deux, trois petites infos encore. Vous dire que.
Trois fois par semaine à Barcelone, il y a
Attends, parce que là, il reste quelques zones, j'ai deux, trois infos à passer.
Sur le jet.
Une info qui va notamment plaire sans doute aux supporters de l'équipe d'Algérie et l'équipe de Tunisie. Le Brésil va sans doute organiser deux matchs amicaux en France fin septembre. Tunisie-Brésil, Algérie-Brésil. Ville à déterminer en France pour que les Brésiliens n'aient pas à retourner au Brésil et puissent faire les matchs amicaux.
En France, comme par hasard.
Ici.
Neymar fait vraiment tout pour que ça se passe bien, sa Coupe du Monde.
Et puis la Fédé marocaine aimerait bien recruter Walter Mazzari pour remplacer Vahid Halilhodžić, qui est à Cagliari, et Mazzari pour son dernier poste. Voilà, Regragui est toujours une option, hein, l'ancien adjoint, mais voilà, a priori, on
Il devrait peut-être tenter un Marocain plutôt qu'un entraîneur qui est un peu fini.
Regragui qui pourrait venir avec, avec un adjoint qui est au FC Twente. Donc néerlandophone, parce que vous savez que dans la sélection marocaine, il y a donc pas mal de francophones, mais il y a aussi des néerlandophones.
Très bien. Et puis je rappelle que la revue de l'After est disponible sur afterfoot.media, le nouveau numéro. On en parlera un peu plus longuement demain, je pense, ou la semaine prochaine. Afterfoot.media pour vous abonner à voir la revue de l'After numéro 6 en avant-première. Et puis les 5 autres, hein, si vous ne les avez pas, évidemment. Si vous êtes encore en vacances, c'est parfait pour la plage. Et si vous avez un matelas à 60 euros, comme Daniel. À demain. Demain, attention.
Ah.
Grande annonce. Demain, à l'heure où nous parlons, le match Maccabi Tel Aviv-Nice n'est pas diffusé à la télé. Mais comme RMC, c'est la classe, bah nous, on y sera. Timothée Mémon est déjà sur zone à Tel Aviv.
On racontera le match. Une analyse sans aveugle.
Radio.
Non, mais lui, il sera au stade. Donc, il va faire radio à l'ancienne.
On va en parler alors.
Voilà, le match sera sur RMC demain, c'est sûr, à partir de 19h.
À moins que très rapidement, demain matin, on prenne un avion, on aille sur place pour faire l'after là-bas.
Pourquoi pas? Pas gagné quand même.
Bon,
on sera.
Moi j'y vais.
Allez, à demain soir, 20h, et donc le match à 19h demain.
L'After Foot, 20h minuit sur AMC.